France Inter.
Bonsoir Fabienne Sinter.
Bonsoir Marie, salut Marine. Pour nous, c'est maintenant que ça commence. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Armement des toboggans, soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Et bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, une candidate qui jette l'éponge.
Nikki Haley met un terme à sa campagne pour l'investiture républicaine aux États-Unis. La voie est donc entièrement libre pour Donald Trump désormais, même si son ex-adversaire ne le soutient pas franchement. Nous sommes à Washington dès le début de ce journal.
Et les autres titres, Kevin.
L'école de la République est en danger. L'alerte ce soir et les mots des sénateurs qui rendent un rapport sur les menaces et les violences dont sont victimes les professeurs. Bercy dévoile le premier bilan des contrôles sur l'origine française des produits alimentaires.
Et on en parle avec Marie Sudry, c'est la porte-parole de la répression des fraudes et c'est l'invité de ce journal.
Et puis rencontre avec Abdelmajid Mehdi, l'artiste qui a vécu 15 ans à la rue et est aujourd'hui exposé à Paris.
Au sommaire du 18-20 ce soir avec le premier invité d'un jour dans le monde, économie de guerre en Europe, d'accord, mais pourquoi on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui coince contrairement aux ambitions de la Commission? Le reportage nous emmène au Kurdistan irakien où les profs ne sont pas payés depuis le mois de septembre. Kevin, vous nous raconterez l'histoire de jumelles qui essayent d'échapper aux poursuites aux États-Unis. On va le dire, c'est raté. Claude Guibal, dans Le Monde à 18h50, est en Afghanistan avec le mix taliban et drogue. Et Corinne Pellissier, dans le cinéma en VO, a vu La Salle des Profs. À 19h20, c'est le téléphone sonne. On parle de l'ultra fast fashion ce soir. Les marques Chine, Temu et d'autres dans le collimateur du législateur. Faut-il légiférer et taxer pour les contrer? Vos questions sont les bienvenus dès maintenant.
France Inter.
Donald Trump est donc désormais unique candidat républicain en course.
C'était attendu après qu'il a remporté hier soir 14 des 15 États qui votaient pour les primaires de son parti en vue de la présidentielle de novembre, ne laissant que le Vermont à Nikki Haley, sa dernière adversaire en lice, qui a donc attendu 10 heures ce matin, heure de la côte Est, pour concéder sa défaite depuis son fief de Caroline du Sud.
The time has now come to suspend my campaign.
Le moment est venu de suspendre ma campagne. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir à tous.
Correspondant de France Inter à Washington, suspendre, c'est l'expression consacrée dans ce genre de cas aux États-Unis, Sébastien, mais ça veut bien dire que c'est terminé pour Nikki Haley.
Oui, c'était inévitable. Après son échec d'hier, vous l'avez rappelé au Super Tuesday, échec tout court dans ses primaires, elle n'a eu au final que la capitale Washington et le Vermont. Son retard sur Trump ne pouvait plus être comblé depuis bien longtemps déjà et tout le monde se demandait juste à quel moment en fait elle annoncerait qu'elle abandonnait. C'est donc fait, mais pas comme les autres concurrents qui ont jeté l'éponge avant elle, notamment Ron DeSantis. Nikki Haley ne rentre pas dans le rang derrière Trump, elle le félicite, mais elle reste fidèle à sa ligne depuis presque 13 mois qu'elle était en campagne. Il y a, dit-elle, une autre voix à entendre au Parti républicain. Ce sont ses électeurs plus modérés et c'est à Trump, dit-elle, de mériter leur suffrage. Ce sont ses mots, mériter les voix de ceux qui n'ont pas soutenu le milliardaire. Elle dit qu'elle espère qu'il y arrivera.
Il y a effectivement la candidate, mais il y a aussi, vous le disiez, ses électeurs et c'est à eux que Donald Trump, mais aussi le président Joe Biden, s'adresse d'ores et déjà.
Oui, les deux adversaires de ce duel annoncé de novembre savent bien tous les deux que chaque voix va compter dans les États bascules, chez les minorités, mais aussi ces voix en effet de l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud. Elle est tout aussi conservatrice de Trump, mais elle n'enfonce pas les portes comme il le fait. Elle se positionne, elle l'a redit tout à l'heure dans son bref discours, comme le président démocrate pour que l'Amérique n'abandonne pas ses alliés. Elle a cité l'Ukraine, Israël, Taïwan. Nous avons un devoir moral vis-à-vis d'eux pour éviter de nouvelles guerres, a-t-elle dit. Et donc ces électeurs-là, lassés de ce qu'elle a appelé pendant toute sa campagne le chaos Trump, ils peuvent être tentés par un vote Biden pour faire barrage à Trump à tout prix en novembre. Et donc les deux candidats, quasi investis maintenant, appellent tous les deux dans des communiqués les électeurs de Nikki Haley à voter pour eux. Nul doute que le traditionnel discours du président sur l'état de l'Union demain soir sera un discours de campagne, ou en tout cas ressemblera beaucoup à un discours de campagne.
Sébastien Paour en direct de Washington pour France Inter. La convention républicaine, ce sera au mois de juillet, puis la présidentielle américaine, ce sera le 5 novembre de cette année. En Ukraine, des frappes russes sur Odessa Odessa aujourd'hui, au moment même où Volodymyr Zelensky achevait son déplacement dans cette grande ville portuaire au bord de la mer Noire. Le président ukrainien, qui était accompagné du premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, qui explique ne pas avoir eu le temps de se mettre à l'abri. La Russie affirme que cette frappe visait une base de drones navals. La situation est plus qu'insoutenable à Haïti. Déclaration ce soir du commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Volker Türk, qui appelle au déploiement au plus vite de la mission de soutien à la police nationale haïtienne qui doit être menée par le Kenya. Les forces de l'ordre dépassées par la violence des gangs à Haïti qui ont de facto pris le pouvoir, profitant de l'absence au pays du Premier ministre Ariel Henry qui était justement au Kenya pour valider cette mission. Il est pour le moment coincé à Porto Rico.
Quatre migrants retrouvés morts hier au large des Canaries.
Ça s'est passé la nuit dernière. Les secours espagnols ont pris en charge une embarcation transportant 68 personnes en tout. Quatre sont décédés, donc 21 prises en charge pour de graves problèmes de santé. Et cela alors que l'on a appris aujourd'hui que 2023 a été l'année la plus meurtrière de la décennie pour les migrants. Au moins 8565 victimes d'après l'Organisation internationale pour les migrations. L'immigration qui est au cœur de la campagne pour les élections européennes, au cœur des programmes aussi. Exemple avec le PPE, la droite, première force politique au Parlement européen en ce moment, dont est issue la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Eh bien, le PPE qui dit dans son programme vouloir transférer à l'avenir des demandeurs d'asile vers des pays tiers. Angélique Bon est à Bruxelles.
Nous plaidons pour un changement fondamental du droit d'asile européen, dit le document soumis au vote cet après-midi. Tout demandeur d'asile pourrait être transféré dans un pays extérieur à l'Union, considéré comme sûr, respectant donc les droits de l'homme pour y effectuer ses démarches. Le PPE reprend ainsi une proposition de la droite allemande dont est issue Ursula von der Leyen. Une idée qui fait également écho au projet controversé des autorités britanniques visant à déléguer en quelque sorte la question des migrants au Rwanda. Cette politique a été qualifiée d'inhumaine et indigne en son temps par la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, mais elle pourrait donc figurer au programme de la droite européenne, le PPE, qui s'apprête aussi à désigner Ursula von der Leyen comme sa championne, chef de file des élections. Alors l'actuelle présidente de la commission sera-t-elle liée politiquement à ce manifeste? Sur le papier, oui, mais dans les faits, le programme de la prochaine mandature fera l'objet de beaucoup de négociations entre les 27 capitales d'abord, mais aussi au sein du nouveau Parlement. Les futurs équilibres politiques, une forte poussée de l'extrême droite, par exemple, auront une influence. En proposant cette mesure choc, la droite européenne confirme en tout cas que l'enjeu migratoire est au cœur de sa campagne.
Les précisions d'Angélique Bouin en direct de Bruxelles. Les élections européennes dans lesquelles se lance en France Jean Lassalle, celui qui a réuni un peu plus de 3% des voix lors de la dernière élection présidentielle, conduit la liste Alliance Rurale lancée par le patron de la Fédération des chasseurs, Willy Schran, qui figure finalement en troisième position. Jean Lassalle est par ailleurs visé par une enquête pour viol et agression sexuelle dans le cadre de laquelle il a été entendu en novembre dernier. Il a toujours nié les faits.
Éviter de nouveaux drames.
Voilà l'objectif affiché par la commission du Sénat sur les pressions, les menaces et les agressions subies par les enseignants. Un rapport était rendu aujourd'hui. Cette mission avait été demandée par la famille de Samuel Paty. Les sénateurs ont traité plus largement les cas de violence qui visent les professeurs. Bonsoir Sonia Princey.
Bonsoir.
Et leur constat est alarmant.
Oui, l'école de la République est en danger, disent les rapporteurs de la mission. Ils ont recueilli de nombreux témoignages de professeurs qui font état d'insultes, d'agressions physiques, de menaces, de contestations d'enseignement de plus en plus nombreuses. Et pas seulement en cours d'histoire-géographie ou de SVT. Toutes les disciplines sont concernées et tous les personnels aussi sont agressés, du chef d'établissement à l'agent d'accueil. Des tensions très inquiétantes selon François-Noël Buffet, sénateur Les Républicains et président de la commission des lois du Sénat.
Si cela était secondaire, on dirait que c'est ponctuel. Ce n'est pas secondaire et ce n'est pas ponctuel. On a le sentiment réel que cela devient systémique et aucun établissement n'est protégé. Et c'est par petites touches que l'on essaye de déstabiliser de l'intérieur notre éducation nationale.
La mission sénatoriale pointe l'extrême solitude des professeurs face à ces agressions et le décalage entre les personnels sur le terrain et leur hiérarchie dans les rectorats. Selon les sénateurs, il existe aussi une nouvelle génération d'enseignants à la conception plus souple de la laïcité, ce qui fragilise la transmission des valeurs de la République. Ils recommandent donc de renforcer la formation initiale sur la laïcité. Ils proposent également de rééquilibrer la place des parents. L'autorité ne peut pas se partager dans les établissements. Il faudrait qu'en début d'année scolaire, les les parents signent une charte qui stipule qu'un enseignement ne se conteste pas. Le rapport suggère aussi l'instauration d'une journée d'hommage aux enseignants qui aurait lieu début octobre, à peu près au moment des hommages pour Samuel Paty et Dominique Bernard.
Sonia Princé, spécialiste éducation de France Inter. Ce devait être 12 milliards en 2025, ce sera finalement au moins 20 milliards d'euros. Voilà ce qu'a dit le ministre délégué aux comptes publics Thomas Cazenave cet après-midi à propos des économies sur les budgets de l'État et de la sécurité sociale. Thomas Cazenave est le ministre de l'économie. Bruno Le Maire auditionné cet après-midi devant la commission des finances de l'Assemblée nationale alors que Bercy prépare déjà 10 milliards d'économies supplémentaires cette année. On y revient dans le journal de 19h.
Lyon adopte la tarification progressive de l'eau.
La mesure concerne l'ensemble des près d'1,5 million d'habitants de la métropole. Concrètement, chaque année, les 12 premiers mètres cubes d'eau seront gratuits, puis le prix sera normal si la consommation est raisonnable, doublé si elle est excessive. Un tarif social est également mis en place pour les foyers les plus modestes, Christophe Vincent.
Inspiré d'expérience à Dunkerque ou à Grenoble, la deuxième agglomération française assume un choix politique avec des tarifs solidaires et responsabilisants. Objectif prioritaire, réduire de 15% la consommation d'eau d'ici à 2035. Le président vert de la métropole, Bruno Bernard.
L'eau est une ressource rare. Le Rhône, qui nous alimente en eau potable, va perdre 20% de son débit d'ici 2050. Donc dans notre politique de préservation de la ressource en eau, il y a aussi la sobriété, donc encourager les habitants à consommer moins.
Les collectifs d'usagers sont impliqués. Lucien Angeletti de l'association Eau Bien Commun.
Pour moi, la question, c'est le droit à l'eau. Les 12 mètres cubes d'eau gratuits rentrent bien dans ce principe de l'universalité. Donc c'est bien pour tout le monde.
30 litres par jour, gratuits, 400 litres au prix normal, les Lyonnais sont sceptiques.
Ce n'est pas des réflexions ponctuelles qui peuvent apporter une solution. Qu'en est-il après des canons à neige pour aller faire du ski ?
Qu'est-ce que ça veut dire trop consommer ? Moi, je suis seule et je ne peux pas plus réduire ma conso. Et tant qu'on ne reçoit pas la facture, on ne peut pas savoir. On nous demande de faire attention à l'environnement. Après, à quel prix ?
Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Et cette tarification progressive de l'eau, Emmanuel Macron veut la voir généralisée à toute la France.
C'était l'une des revendications fortes des agriculteurs il y a quelques semaines.
Le contrôle de l'origine française des produits alimentaires. Être bien sûr que ce qui est marqué sur les étiquettes est vrai. Eh bien, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, la DGCCRF, annonce ce soir un premier bilan sur près de 2000 contrôles déjà mené.
Bonsoir Marie Sidori.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. 683 anomalies sur 2000 contrôles, sachant que ça ne fait que commencer. Des contrôles, il y en aura 10 000 d'ici à la fin de l'année. C'est une moyenne haute, Marie Sidori, mais moyenne haute, ça veut dire que vous savez surtout où viser, non ?
Alors, les contrôles de la DGCCRF, effectivement, se portent auprès de professionnels que l'on cible préalablement parce que l'on les a signalés ou parce qu'ils ont fait l'objet de contrôles précédemment.
Alors, signalés par qui ? Est-ce que ce sont les consommateurs qui alertent ? Est-ce que ce sont parfois les salariés ? Comment ça se passe ?
On recueille tout type de signalement, donc sur notre site Signal Conso par exemple, ou bien auprès de préfectures ou encore de professionnels, de tout type de signalement.
Ça veut dire que les pratiques, Marie Sudori, vous les connaissez et vous savez aller non seulement directement au magasin, mais surtout directement au rayon peut-être aussi, non ?
Alors, en matière de fraude sur l'origine, les mentions d'origine des produits, nous intervenons à tous les stades de la chaîne de commercialisation, depuis la production jusqu'à la distribution. Nos actes d'enquête sont différents en fonction de l'opérateur que nous allons contrôler.
Mais alors, quand vous allez, par exemple, vers une grande surface, en priorité, vous allez vers quel rayon et ça se passe comment ? Qu'est-ce que vous regardez sur l'étiquette ?
Alors, les pratiques de francisation porte essentiellement sur des produits frais, donc fruits et légumes, viande. Et sur les fruits et légumes en particulier, on se concentre sur des fruits et légumes à fort volume dont les productions françaises et étrangères se chevauchent. Mmh. Et donc, elles sont particulièrement soumises aux fraudes sur l'origine et la provenance.
C'est-à-dire, comment ça marche ? Qu'est-ce que vous voyez sur l'étiquette et qu'est-ce qui allume une petite lampe rouge au-dessus de la tête de vos contrôleurs qui disent « attention là, anomalie, peut-être même tricherie ».
Alors, d'une manière générale, donc, nous allons vérifier la justification de la mention d'origine auprès donc, du distributeur ou d'un autre acteur, ça peut être un négociant également. Et donc, pour cela, nous obtenons des documents de traçabilité des achats qu'ils font.
Si vous savez là où ça va pas, Marie Sudry, le plus souvent, si vous avez été aiguillée, vous le disiez, soit par les consommateurs, soit parfois par des salariés, ça veut dire que c'est rarement une méconnaissance, mais plutôt une tricherie, non ? Est-ce qu'on peut le dire aussi clairement que ça ?
Nous adaptons les suites de nos contrôles en fonction des manquements que nous constatons. Donc, il peut y avoir des manquements plus ou moins importants. Nous adaptons nos suites, donc de l'avertissement pour les manquements les moins importants jusqu'à la sanction pénale pour des pratiques plus graves.
Mais est-ce qu'on sait voir et comprendre si c'est une méconnaissance et du coup c'est juste un avertissement ou si c'est vraiment une tricherie ? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes totalement capable de voir ?
Alors, omettre une information à destination du consommateur, ça peut constituer une pratique commerciale trompeuse. Donc, tout le rôle des agents de la DGCCRF est d'obtenir en fait des justifications des professionnels afin qu'ils définissent leur intention vis-à-vis des consommateurs. Ces suites pénales, c'est jusqu'à 300 000 euros d'amende pour une personne physique et 2 ans de prison, ou alors 10% du chiffre d'affaires pour les personnes morales.
Là, par exemple, est-ce que vous savez, sur les 683 anomalies, combien peuvent être considérées comme intentionnelles et donc vont finir par une procédure qui ira plus loin ?
Alors, comme nous l'avons mentionné et le ministre l'a rappelé aujourd'hui, nous avons 413 avertissements qui seront adressés à des établissements pour des non-conformités qui relèvent de méconnaissance de la réglementation. Et puis, donc, pour les manquements les plus graves, nous avons 130 demandes de mise en conformité et près de 150 procès-verbaux pour sanctionner certains professionnels.
Marie Sudry, porte-parole de la DGCCRF, la répression des fraudes. Merci beaucoup.
L'actualité ce soir, c'est aussi cet entraîneur de l'équipe de France féminine de gym suspendue à 4 mois des Jeux Olympiques de Paris. Décision du ministère des Sports concernant Dumitru Pop, le dirigeant roumain présent depuis des années dans le staff de la gymnastique artistique, est accusé de violence, de maltraitance par plusieurs athlètes. Bonsoir Emma Sarango.
Bonsoir.
Sa suspension fait suite en fait à une enquête administrative lancée il y a près d'un an au sein de la fédération.
Oui, à la suite d'un reportage diffusé sur France 2 dans lequel des anciennes gymnastes témoignaient de violences physiques et psychologique. L'IGESR, l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche, avait alors débuté une enquête et ce sont ces inspecteurs qui ont, au moyen de l'article 40, saisi le procureur pour des faits donc de maltraitance et de violence, selon ce que nous a confirmé le directeur technique national, sans nous en dire plus. Des faits qui auraient donc été commis par Dumitru Pop, surnommé Nelu Pop, un Roumain d'une soixantaine d'années qui entraîne depuis 10 ans maintenant les meilleures gymnastes artistiques françaises, notamment à l'INSEP. Il a décroché avec elle en octobre la médaille de bronze au concours par équipe aux Mondiaux d'Anvers et donc le ticket pour les JO de Paris. Il est un élément clé de l'encadrement national, mais en attendant de savoir si une enquête pénale va être ouverte ou non, le ministère a décidé donc de le suspendre provisoirement de ses fonctions. C'est la deuxième suspension après celle intervenue dès le mois de juin dernier, donc juste après le reportage. Il s'agissait alors de la directrice de la haute performance qui depuis n'est jamais revenue au sein de la Fédération française de gym.
Les explications d'Emma Sarango. Ce n'était pas de la haute montagne, mais déjà l'une des étapes les plus difficiles de ce Paris-Nice. 3300 mètres de dénivelé entre Chalon-sur-Saône et le Mont-Brouilly, aujourd'hui dans les vignes du Beaujolais, au sommet duquel le Colombien Santiago Buitrago s'est imposé. Pas de grande explication entre les favoris pour le général. C'est l'Australien Luke Plapp qui s'empare du maillot jaune. En foot, la suite des huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions à 21h. Le Real Madrid reçoit Leipzig avec peu de marge, un victoire 1-0 seulement à l'aller. Pour Manchester City, ce devrait être une formalité. Les Anglais, vainqueurs 3-1 au match aller, reçoivent Copenhague. Enfin, je vous emmène au palais de Tokyo, à Paris, pour une exposition baptisée Signal, consacrée notamment aux représentations des identités. Expo signée Mohamed Bourouissa, qui montre ses œuvres, mais aussi celles d'autres artistes, parmi lesquels Abdelmajid Mehdi, 73 ans, un homme au parcours assez extraordinaire, Gabin Bouquet.
C'est un artiste qui a vécu à la rue pendant 15 ans. Tout le monde le croyait mort jusqu'à ce qu'il apparaisse dans un reportage du Média Brut. publique. Plusieurs musées le reconnaissent sur les réseaux sociaux et lui proposent d'exposer ses œuvres.
C'est extraordinaire, ça m'a fait plaisir. J'ai vécu des années, voire des décennies d'exclusion et tout. J'étais exposé au vol, enfin tout ce qui peut subir un artiste à l'extérieur. Voilà, c'est ma revanche.
Le plasticien et vidéaste Mohamed Bourouissa, conquis par l'art céleste et schématique de l'ancien sans-abri, décide de le convier à son exposition au Palais de Tokyo.
Ça m'a marqué tout de suite. Très sophistiqué. De l'ordre de la métaphysique, de la philosophie, des mathématiques. Un peu rejoint, moi, des préoccupations que j'ai, une dimension sociale. Voilà, c'est pour ça que j'ai été captivé par son travail.
Cette participation n'est qu'une première étape. L'ancien sans-abri continue de créer sans cesse.
J'espère que c'est le premier pas de mon lancement dans le futur. J'ai laissé déjà du travail sur la planche. Je suis fait pour ça.
Il est désormais logé en partie grâce à la mairie de Paris et travaille aussi sur l'écriture d'un livre, vaste sujet, sur la recherche des origines de l'homme sur Terre.
Portrait signé Gabin Bocquet, service culture de France Inter. L'exposition est à voir jusqu'au 30 juin.
Eh bien, tout ça, c'est noté. Merci beaucoup, Kevin Dufraîche. Vous reviendrez pour aller chercher l'actualité nationale, qui est internationale, qui nous a échappé, qui a fui sous les radars. Vous savez, la débusquée. Allez, un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Et Sébastien Léas, bonsoir. Soleil et éclairci, voilà pour demain.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. La calmie amorcée aujourd'hui va se confirmer demain avec une journée globalement ensoleillée. Le soleil et les belles éclaircies s'imposeront quasiment partout, mais il faudra parfois être patient et attendre la dissipation des grisailles matinales, en particulier sur un large quart nord-est. Entre le sud-Bretagne et les plaines du sud-ouest, c'est un épais voile de nuages élevé qui atténuera un peu le soleil. L'après-midi, ce voile nuageux se décalera vers la Normandie, le Lyonnais et la Provence. Le soleil sera aussi un peu plus discret l'après-midi entre les Hauts-de-France, le bassin parisien et l'Alsace, l'impression restant quand même très lumineuse. En revanche, sur le Languedoc, ce sont les nuages qui l'emporteront demain, le vent d'autan et le vent marin apportant de plus en plus d'humidité. Ce sont d'ailleurs les prémices d'une fin de semaine de nouveau très agitée.
Avec quelques petites gelées matinales.
Oui, à la faveur du ciel de plus en plus dégagé, les températures vont baisser sur les régions de l'Est, pouvant même passer sous la barre du 0 degré. Il risque d'ailleurs de geler à Nevers, à Clermont-Ferrand, mais aussi à Avignon. Les maximales seront elles en hausse et plutôt douces pour la saison. 11 degrés à Nancy, 12 degrés à Strasbourg, Lille et Caen, 13 degrés pour Paris, Brest, Tours et Aurillac. On attend 14 degrés à Nantes, Besançon, Montpellier et Toulouse, 15 degrés à Lyon et Marseille, 16 degrés pour Ajaccio, 19 degrés à Perpignan, jusqu'à 20 degrés à Biarritz.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup Sébastien, vous reviendrez tout à l'heure après le journal de 19h.